Donc, commençons par le premier nœud. Le premier nœud arrive bien avant l'emprise, hein, quand on écoute les gens. Hein, donc, c'est-à-dire qu'il y a des dispositifs qui rendent très vulnérables. Bien sûr, dans le bouquin, il y a des gens qui ont des doctorats, hein, qui ont été dans des systèmes d'emprise. Mais il y a quand même beaucoup de gens de milieux très populaires, hein, donc, qui avaient un terreau, donc qui avaient une niche écologique pour l'emprise. Hein, donc, alors cette niche écologique, elle est multiple. Et attention, c'est pas parce qu'on a une niche écologique qu'on va tomber sous emprise non plus. Il faut qu'il y ait d'autres nœuds. Hein, donc, mais la première niche, c'est souvent l'histoire familiale. Hein, les gens doivent vivre avec des traumas qui les ont éjectés comme sujet de leur... qui les ont vidés de leur substance. Hein, donc, parfois, l'emprise est chez les parents. Hein, donc, ils ont des mères qui sont sous emprise ou des pères qui sont sous emprise, un travail esclavagisant, qui n'ont pas de papier, qui sont dans des situations graves. Et donc, ça se loge soit dans des expériences personnelles, soit dans les transmissions, comme si on vous avait enseigné à obéir à l'autorité. D'abord et toujours, et que vos facultés rebelles, on les avait étouffées dans l'œuf au fur et à mesure de votre éducation. Donc, il y a des contextes de subalternisation. C'est clair que le genre en fait partie. Donc, la classe aussi, elle est faite de lieux. Vous avez beaucoup plus de chances de tomber dans les réseaux quand vous venez d'un quartier populaire que quand vous venez d'un quartier bourgeois. Pourquoi ? Parce que les réseaux sont implantés dans l'environnement, tout simplement. Donc, il y a les parcours d'exil aussi, donc, qui vont vous isoler et vous rendre beaucoup plus vulnérable par rapport à l'emprise. Et puis, il y a des moments dans la vie. Parfois, l'emprise se déclenche quand il y a eu un deuil, quand il y a une dépression. Le nombre de gens qui font un burn-out et puis qui tombent sous l'emprise d'un gourou malveillant, quoi, d'un coach malveillant qui ne sait pas gérer le transfert ou qui le gère de manière tout à fait patriarcale et tout à fait totalitaire, quoi. Donc, commençons par exemple par les traumatismes précoces. Il y a des enfants, oui, qui ont commencé à exister assujettis. Oui, donc, par exemple, Jodie, qui est une assistante sociale extrêmement, vraiment, extrêmement compétente, qui travaille pour un groupe de femmes dans sa vie privée. Elle est animatrice d'un groupe de femmes qui a subi l'inceste. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle travaille là comme bénévole depuis très longtemps. Et jamais sa famille ne pose la question du pourquoi. Et jamais elle ne pose la question, elle n'explique à sa famille pourquoi. Donc, et c'est dingue, hein, il peut y avoir, les systèmes d'emprise cohabitent avec plein d'autres dimensions de l'existence. Donc elle fait beaucoup de liens, quand je la rencontre, entre l'emprise incestueuse et l'emprise conjugale. Donc elle dit que ça se répète souvent, que ça s'est répété dans sa vie et qu'il lui a fallu des années pour décrypter tout ça. Elle dit... par exemple, mon ex-mari, il s'est imposé là où c'était vide, là où je n'existais pas. Donc, il n'y avait pas de possibilité qu'il y ait un moi. Et donc, ce moi, il se gomme, il s'efface, il n'existe plus. En tout cas, dans une partie de ma vie, l'affectivité, surtout, mais aussi la sexualité, c'est comme ça. C'est avec ça que j'ai grandi. Ça permet de supporter plein de choses, puisqu'il n'y a pas de moi. Mais quand tu rencontres un abuseur et que tu n'as pas de moi, bah, il abuse de toi. Et dès le premier jour, mon mari, il a abusé de moi, il m'a fait faire des choses que je ne voulais pas faire. Il l'a fait, c'est tout. Et j'ai dit, ok, j'aurais pu dire stop, je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas lui dire non. Pourquoi ? Ben, parce qu'il y a quelque chose qui m'a empêchée d'exister comme sujet. Vous voyez, donc là, on a une femme à qui on ne l'a fait pas. Franchement, c'est une assistante sociale, si vous l'avez de votre côté, c'est bien. Si vous l'avez contre vous, ça c'est très grave. Vous voyez, c'est quelqu'un de très puissant, de très, très intelligent. Hein, donc... Mais il y a une part d'elle-même, c'est la terre brûlée. Vous voyez, c'est la terre brûlée. Là. Et donc, elle explique ça très bien. Alors, oui, il y a les traumatismes précoces, mais il y a aussi beaucoup plus globalement... Ah oui. Il y a aussi beaucoup plus globalement la question du genre. Parce que c'est vrai que dans la violence conjugale et intrafamiliale, c'est principalement des femmes dans la violence au travail. Par contre, c'est beaucoup plus des hommes dans la violence liée à l'accrochage aux drogues, c'est beaucoup plus des hommes. Donc tout ça dépend évidemment de votre habitude genrée, de la façon dont on vous a éduqué, quoi, hein. Donc, oui, par exemple, attendez, je l'avais mis là. Oui. Par exemple, une de mes interlocutrices, elle me raconte que quand elle était petite, oui, elle ne pouvait jamais aller loger chez quelqu'un. Elle ne pouvait jamais sortir, même en voyage scolaire, elle ne pouvait pas aller. Oui, parce que sa façon de l'aimer, son père, c'était de la protéger trop. Donc on imagine bien ce qui a dû se passer, que ce père a eu comme leitmotiv de protéger sa fille. On imagine bien quelque chose, mais toujours est-il que... Oui, elle a toujours vécu enfermée. Et donc, quand les premiers petits copains sont arrivés, et quand elle a rencontré le nœud de l'emprise, c'est-à-dire qu'elle a fait une mauvaise rencontre, elle n'avait pas du tout les moyens de défense. Elle était complètement anéantie, parce qu'elle n'avait jamais pu exister comme sujet. Donc on voit comme le genre est un facteur extrêmement difficile. Donc ces questions de vulnérabilité, c'est essentiel pour comprendre ce qui s'est joué. Parce que si les gens ne comprennent pas, ils disent qu'ils sont faibles. Vous voyez, donc ils se voient comme responsables de ce qui s'est passé. S'ils ne peuvent pas imaginer une autre vie, que ce que la vie les a amenés à avoir comme direction, comme trajectoire, ça se répète. Un autre élément qui se joue aussi dans les situations d'emprise, il n'y a pas que le genre. Il y a aussi, je dirais, les théories folles. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire quand je dis les théories folles, par exemple, cette jeune femme, qui a été tout à fait aux prises avec un gourou New Age, je ne me rappelle plus tellement, appelons-la Iris. C'est vraiment, ce gourou, il est entré dans la famille à travers les problèmes de santé mentale du père. Et très progressivement, il a introduit un espèce de schéma New Age avec un petit peu d'hindouisme, un peu de bouddhisme, un petit peu de systémique, un petit peu de tout. Et il a construit un système, une théorie folle. Et les familles avec l'idée qu'il fallait retraditionnaliser les familles. Donc, c'est un exemple, mais je veux dire, dans le New Age, il y a énormément de situations du même type qui peuvent être de plus en plus folles sans que les gens arrivent à décrypter où est la folie, ce qui se joue. Parce que dans le New Age, on ne publie pas. Il n'y a pas de système de régulation. New Age, développement personnel, comme vous voulez. Et donc, en plus, on transmet d'élève à maître. Donc il y a vraiment là un lieu pour l'emprise qui est de plus en plus important. En tout cas, en Belgique, c'est vraiment... Oui, les théories New Age sont en train de se développer à une vitesse VV', et elles se rapprochent de plus en plus des églises radicales, je trouve, dans leur modalité de travail. Et là, on voit comment ces théories peuvent entrer en conflit complètement avec la rationalité. Puisque nulle part il y a de régulation sur ces théories et que les gens plus vulnérables se retrouvent pris avec ces théories. Il y a des trucs vraiment dingues. Par exemple, je me rappelle d'une femme qui avait été dans Les Clés du Succès. Vous avez déjà vu ça, Les Clés du Succès? C'est un truc très belge peut-être. C'est en fait des groupes qui disent que si vous n'avez pas réussi dans votre vie, c'est que vous êtes peut-être un 2 sur 10, mais que vous pourriez devenir un 10 sur 10. Donc vous devez comprendre ce qui se joue en vous pour pouvoir percer, pour pouvoir devenir. C'est un truc qui coûte un fric fou. Un week-end, c'est 10 000 euros. Donc, ça vous explique ce jeu. Mais attention, c'est pas que le New Age. Par exemple, en Belgique, on a une célèbre institution, comme ça, une structure pour enfants, qui a été noyautée par la théorie de la régression. Donc c'est l'idée qu'il fallait que les enfants repassent par un stade repassent par les différents stades de l'existence, et dans ce stade, il y avait probablement quelque chose qui s'était mal passé, mais s'ils y retournaient avec des personnes bienveillantes, ils allaient traverser ce stade et devenir, entre guillemets, normal. Donc pour leur bien, on les faisait régresser. On les hyper-médicalisait, On les surmédicamentait, pas médicalisés, on leur donnait énormément de médicaments. Hein, donc, on faisait des mises en chambre, on leur donnait le biberon, par exemple, des adolescents. On leur faisait prendre le bain, etc., comme si c'était des bébés, vous commencez à voir. Hein, donc, et puis, c'était vraiment l'idée qu'alors, progressivement, c'est un psychiatre qui avait mis au point cette théorie-là, et que progressivement, ils allaient aller mieux. Hein, donc, le type a été viré, ça, il n'y a pas très longtemps, ça fait 15 ans. Le type a été viré, c'est très difficile de virer un psychiatre, très très difficile. Mais il a été viré, mais il a refait la même théorie en Italie du Sud. Donc, c'est pour vous dire qu'on est... Il n'y a pas que le genre qui est agissant. Hein, donc, il y a aussi les abus de transfert qui sont très présents dans un monde où les régulations se défont. Il y a aussi toutes les violences ségrégationnistes. Hein, le fait que si vous vivez dans un lieu qui pour vous est un cul-de-sac, hein, donc il n'y a pas d'avenir dans ce lieu. Oui, qu'avec ce lieu, vous êtes un enfant building, vous êtes un enfant de cité. Quoi, hein, donc, il n'y a pas de possibilité d'être autre chose. Hein, donc, parce que la seule économie auquel vous pouvez avoir accès, c'est l'économie des réseaux. C'est celle qui est près de chez vous. Et que là, ça vous fera des potes, ce sera l'interconnaissance, ce sera plein d'activités, ce sera la possibilité aussi de faire l'argent, de sauter au-dessus de la déscolarisation, vous voyez, de coffrer et de devenir. Quoi, hein, donc, c'est clair que c'est une niche écologique aussi, hein, donc, pour les réseaux. Quoi. Mais clairement, ça ne suffit pas, parce que vous avez plein de gens qui ont ça, plein de gens qui ont des traumatismes précoces, plein de gens qui sont dans des contextes de subalternisation, plein de gens qui ont des moments de vulnérabilité, c'est pas pour autant qu'ils tombent sous emprise. Hein, donc, il faut un deuxième nœud, quoi. Hein, donc, et le nœud suivant, c'est la double scène, justement, c'est la mauvaise rencontre. Hein, donc, d'un système charismatique qui va vous offrir des rêves, qui va vous offrir des liens, qui va vous offrir parfois du groupe. Hein, donc, comme les clés du succès, par exemple, ça vous offre du groupe. Hein, donc, et avec ce dispositif, cette personne ou ce dogme ou cet espace d'abus de transfert, eh bien, progressivement, donc, le lien va devenir vital. Et vous n'allez pas voir ce qui se joue en sous-main. Hein, donc, la mécanique d'emprise qui se met en marche, vous ne voyez pas la double scène, vous ne voyez pas ce qui se joue en dessous. Quoi, hein, donc, alors, je pense par exemple au gourou magnétique, au partenaire intime prédateur, au père abusif, aux entreprises qui ont une culture très énergisante au départ, aux réseaux souterrains qui vous donnent des protections. Vous voyez, donc, c'est des mauvaises rencontres, mais en même temps, qu'est-ce que c'est attirant? Qu'est-ce que c'est extraordinaire ce qu'on vous propose dans la situation où vous êtes. Hein, donc, et ça, c'est clair que l'histoire du consentement qu'on voit dans la loi n'a aucun sens pour un système d'emprise. Parce que personne ne rentre dans un réseau, personne ne noue une relation amoureuse avec un homme violent, le pistolet sur la tempe. Les gens, ils y vont tout seuls. Vous voyez, donc ils y vont pour tout le rêve que ça leur apporte. Quoi, hein, donc, après, la machinerie de l'emprise, elle est complexe. Hein, et en même temps, elle est toujours la même. Elle est celle des États totalitaires. Hein, donc, on connaît bien le contrôle coercitif. On ne va pas revenir là-dessus. C'est la première chose que les magistrats regardent, hein, le contrôle coercitif. Quoi, hein, donc, il y a bien d'autres choses. Hein. Il y a le sentiment que vous vous donnez tout entier à quelqu'un qui vous possède, vous devenez sa chose. Ouais, donc, vous devenez la chose du réseau, vous devenez l'objet du réseau. Hein. Donc, vous êtes de plus en plus isolé, vous êtes de plus en plus désinformé. Ouais. Les gens disent aliéné, c'est possible, aliéné, mis hors de vous. En tout cas, vous appartenez, cette appartenance est totale. Et pour pouvoir continuer à appartenir, pour pouvoir être un objet de ce réseau, un rouage de ce réseau, hein, donc, ou de cette famille abusive, ou de cet homme violent, hein, donc, il faut vraiment que vous voyez aussi comme sa chose. Ouais, il faut que vous adhériez au système. Et ce sont des systèmes très violents parce que s'ils sentent que vous recommencez à avoir un petit peu d'imaginaire ou à penser un peu par vous-même, vous êtes exclu et vous souffrez énormément. Donc, bah oui, Navalny, par exemple. Hein. Oui, donc, c'est... Oui. Alors, oui. Regardez Clara. Donc, elle était dans ce groupe trotskiste radical. Alors, elle dit... Donc, elle raconte la dérive de ce groupe. J'ai rien contre les trotskistes. Hein. Donc, ici, d'ailleurs, j'ai appelé ce groupe la ligne. Donc, d'ailleurs, ce groupe n'a rien à voir avec les trotskistes. C'est sous couvert de trotskisme. Ça va, vous me suivez hein. Donc, c'est la double scène. Hein. Donc, elle dit, eux, c'était... nous, on veut tout savoir sur votre vie. Il n'y a pas de sphère privée pour le parti. Tout est politique. La famille est politique. Élever des enfants est politique. Tout doit être public et transparent. Les couples s'organisent à l'intérieur du parti. On n'imagine même pas d'avoir un partenaire à l'extérieur. D'ailleurs, on conseille aux garçons de se faire faire une vasectomie parce qu'il faut consacrer sa vie à la cause. Donc, toutes les dimensions de l'existence de ce groupe, le logement, les relations, la parentalité, le rapport au corps, le travail, la gestion de l'argent, puisqu'on doit aussi donner l'argent au parti. Tout ça est sous contrôle. Vous voyez la dimension totalitaire. Toutes les dimensions de l'existence sont sous contrôle, quoi. Alors, au niveau de la menace, de la pression, moi je trouve que Serge, vous voyez, le type qui m'a vraiment amené à comprendre comment fonctionne un système de coursier, hein, donc lui dit, quand on commence, le dispatcher, il va te dire de faire 20 clients. Première journée, tu rentres à 16 heures. Le lendemain, il te donne 22 clients. Après, il m'a mis 28, 29, 30, 31, 32, 33 clients. Je suis montée jusqu'à 60 clients par jour. Une fois qu'ils passent une étape, ils essayent d'aller plus loin. Et c'est tout le temps de pression, de pression, de pression, ça te détruit. Donc, il raconte la robotisation de l'aide au travail. Alors, il m'arrive un truc un peu étrange, enfin, pour moi, mais en fait, c'est tout à fait compréhensible. Donc, moi, je parlais du coursier, vous voyez. Donc, un type qui n'a pas fait d'études, qui en plus a été vraiment longtemps dans les toxicomanies, qui est hyperactif et qui rentre là-dedans, vous voyez, qui raconte ça. Et puis un jour, je fais une formation, on m'a demandé de venir à une formation là, pour des magistrats. Donc, voilà. Et puis, je devais vite prendre mon train. Tiens. Et puis, il y a une dame qui me court derrière. Je me retourne, je me dis, ça y est, j'ai dit quelque chose qui l'a vraiment choqué. Bon, là, je m'arrête, je discute. Et cette dame, ça a été une juge des enfants. Elle me dit... Écoute, moi, j'en ai les larmes aux yeux. Ce que tu as dit là, vraiment, mais c'est ma vie, quoi. Je dis, ah bon ? Elle dit, bah oui, comme juge des enfants, t'as un dossier, deux dossiers, trois dossiers, quatre dossiers, cinq dossiers, dix dossiers, et ça monte, ça monte, ça monte. Et finalement, t'as 10 minutes pour gérer la vie d'un enfant. Mais tu deviens un robot, quoi. Donc, c'est intéressant, vous ne trouvez pas ? Donc, ça montre un peu le mécanisme, ce qui se joue, quoi. Et donc, progressivement, un système d'emprise, ça va disloquer tous les liens horizontaux. J'accélère. Tous les liens horizontaux, ça veut dire, par exemple, dans une famille, quand il y a une situation d'emprise, les frères et sœurs ne vont pas être capables de s'entendre. Hein, donc, puisque le seul lien qui pourra se déployer est le lien avec le système abuseur. Vous voyez donc, et donc, par exemple, une équipe qui est sous emprise, il n'y a aucune possibilité d'avoir des liens. Pour Serge, par exemple, il n'y avait jamais, jamais de réunion d'équipe. Il n'y avait pas de lieu où construire quoi que ce soit comme résistance. Quoi, hein, donc, le rapport des chauffeurs entre eux, c'était un rapport de balance. Quoi. Oui, là, c'est un balance, là, c'est un faux cul, etc. Oui. Il n'y avait pas de possibilité de construire des solidarités. D'où l'intérêt, évidemment, d'une journée comme celle-ci, où il y a des rencontres, etc., parce que ça reconstruit des liens. Quoi. Dans la famille Drage, là où, avec ce psychologue qui retraditionnalisait les familles, la fille aînée, Iris, hein, elle a été retirée de l'école très tôt, puisqu'il faut qu'une femme devienne une femme, donc ce n'est pas en faisant des études qu'elle va devenir une femme, vous commencez à voir. Hein, on l'a retirée très tôt des études, on l'a mise dans une autre famille, sa sœur aussi, et finalement... Elles ont viré la fille aînée qui avait commencé des études de médecine et qui ne croyait pas à toutes ces fredaines. Ils l'ont virée carrément de la famille. Il a fallu presque 30 ans pour qu'elle puisse reconstruire des liens. Et donc, les organisations du travail violentes vont utiliser les mêmes méthodes. Elles vont décollectiviser le travail. Donc, de telle manière à ce que la seule Le seul lien qui existe, c'est par exemple entre le coursier et le dispatcher. Donc, par exemple, un jour à Pandore, la société que j'ai appelée Pandore de coursier, il y a les assureurs qui demandent de voir les chauffeurs parce qu'il y a trop d'accidents de travail. Oui, donc, et alors Serge y raconte, voilà, la réunion, on attendait tous, et puis le dispatcher a annulé. Parce que, alors je lui demande pourquoi, et alors il dit, le directeur, c'est, vous ouvrez votre gueule, on vous casse. On est des machines, on est des robots pour eux. Et on est plus des êtres humains. Et donc, les êtres humains, pourquoi ils redeviennent humains quand ils font des collectifs. Le processus de déshumanisation, c'est justement de casser tout le collectif. Alors, le nez suivant, ben, il va avec, c'est la dépendance affective, c'est le silence. Et ça, je trouve que vraiment, cette question de la confusion, de la sidération, de ne plus exister, d'être finalement l'objet du système, elle est particulièrement difficile à comprendre, par exemple pour la police, quand une femme va porter plainte ou un jeune va porter plainte, parce qu'au moment où on va porter plainte, on n'a déjà plus le vêtement narratif, je dirais. Oui, normalement, pour raconter une histoire, il y a un début, une fin, et puis il y a une conclusion. Donc on a une structure pour raconter une histoire. Mais quand vous avez vécu de l'emprise, vous ne savez plus parler. Donc ça arrive vraiment par petits bouts. Et ça donne vraiment un sentiment d'incohérence. Et donc la police, elle ne s'y retrouve pas. Et elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce tissu de mensonge-là? Vous voyez, ça ne marche plus. Donc ça prend du temps. Regardez. Ada, qui était une productrice indépendante, une fille qui connaissait cinq langues, qui connaît cinq langues, vraiment, une nana, on ne pourrait pas dire, avec énormément de ressources, vous voyez, qui a été plusieurs années sous l'emprise d'un homme violent, et qui s'en est sortie juste avant le féminicide, juste avant. Je la rencontre un ou deux mois après qu'elle soit sortie de là, elle était chez une amie, elle me dit. Au début, heureusement que je l'enregistre, parce qu'elle me dit, mais moi je ne comprends rien à ce qu'elle me dit. Vous voyez, elle commence et elle dit, ouais, attends, parce que j'ai perdu le fil. Je ne sais pas pourquoi je te disais ça. Enfin, attends, je veux dire, ça me revient, tu vois, c'est un truc, je ne sais pas, j'ai perdu le fil. J'ai pas dépassé, c'est quelque chose de profond. Enfin, je veux dire, c'est une blessure, tu comprends? Une blessure. Un jour, il y a Jack, il m'a craché dessus pendant une demi-heure. Et puis, enfin, tu comprends, j'avais plus rien, enfin, il a tout gardé, enfin, j'ai rien pris, enfin, c'est moi qui n'ai rien pris, tu comprends? Attends, ça me revient. Un jour, il a allumé une plaque électrique, il m'a pris mon visage, il l'a approché de plus en plus près de la plaque. Enfin, j'ai perdu le fil, je sais pas pourquoi je te disais ça. Je veux dire, ça revient, tu comprends? Il y avait aussi que je suis très frileuse, et la nuit, il prenait des poubelles d'eau froide, il me les lançait. Enfin, tu comprends, j'étais lessivée. Enfin, c'était la grande lessive, enfin, c'était le lavage de cerveau. C'était la fatigue aussi. Oui, mais franchement, ici, je vous le raconte, mais quand vous écoutez la personne vous parler comme ça pendant une heure, vous êtes perdu, vous êtes complètement perdu. Parce que la faculté de raconter, c'est comme si... C'était un puzzle qu'on avait jeté par terre, il y avait des pièces partout, et vous allez d'une pièce à l'autre, vous n'arrivez pas à reconstruire l'histoire, c'est extrêmement fatigant. Et donc un réel qui devient très confus, très difficile à signifier à cause de ce qui s'est passé, de la confusion, de la sidération, du fait qu'on s'est tellement tu, du fait que tout a été... Bon, du fait qu'on ne se souvient plus et les trucs reviennent par fragments, c'est vraiment un signe qu'on est emboucané jusqu'à l'os. Bon, il n'y a pas que la violence conjugale. On voit, par exemple, des gens qui disent « Ouais, ok, mais j'étais comme un zombie, j'existais plus, j'enregistrais plus rien. » Quand on me demande « Pourquoi tu n'as pas protégé tes gosses à ce moment-là » Oui, mais... chacun le dit à sa manière. Mais c'est comme une impossibilité de pouvoir correspondre aux valeurs qui vous tiennent à cœur. Vous voyez, et c'est vrai, on a des gens qui protègent plus personne, quoi. Les gens finissent par intérioriser tout ça. Après, c'est pas encore avec ça qu'on fait de l'emprise, parce qu'il y a des gens, ils ont tout ça, mais à un moment, ils ont un éclair de lucidité, ils se cassent, ils trouvent des gens qui les aident, et c'est bon, c'est parti. Ils y restent pas, Les gens, ils y restent quand ils sont hors du droit. Vous voyez, quand ils sont, quand autour d'eux, c'est le mutisme et l'aveuglement. Donc, quand ils n'ont pas de protection, quand ils n'ont pas de recours. Par exemple, une femme, en Belgique en tout cas, qui va à la police, qui n'est pas reçue, déjà, bon, imaginons qu'elle est reçue, ce n'est pas pour autant qu'elle va trouver une place pour qu'on l'héberge. Hein, donc, ça tombe, elle est dans la rue, et elle est au SAMU social, avec ses gosses, et donc elle ne peut pas supporter, donc elle retourne. Oui. Le pire, c'est pour les femmes qui n'ont pas de papier, qui sont arrivées par regroupement familial, qui sont avec un mari violent, elles savent bien que si elles vont porter plainte, ça dépend sur qui elles tombent. Si elles tombent sur une équipe qui est plutôt, je dirais, dans les procédures, pour ne pas dire autre chose, ben ils vont tout de suite appeler l'Office des étrangers pour dire, voilà, mais non, mais cette femme, elle n'est pas en couple, machin, hein, c'est pas du tout... Et cette femme, elle n'a pas envoyé un dossier à l'Office des étrangers en même temps, elle n'a pas réuni les preuves, vous voyez. Et donc, en un, deux, trois, hop, elle se retrouve dans un centre de retour. Enfin, c'est parfois... Alors là, l'emprise, elle dure. Hein, donc, parfois jusqu'au féminicide. Parce que, justement, il n'y a pas de recours, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de protection. Quoi. J'avance. Je te jure, c'est bientôt. J'avance. Je lis plus d'extraits, tout. J'avance. Donc, le nœud qui est le plus dur pour les gens, ce n'est pas encore ça. Le plus dur pour les gens, c'est quand ils voient qu'ils sont arrivés à sortir d'un système d'emprise et qui voient arriver dans leur vie un autre système d'emprise, ou qu'ils le voient arriver à travers leurs enfants. Vous voyez, ça, c'est le plus dur. Ça les casse, c'est vraiment terrible, quoi. Alors, pourquoi ? Et en fait, c'est tout simple, pourquoi ? Enfin, ils le racontent bien, pourquoi, en fait. Donc, les gens, ils ont été vidés de leur subjectivité, de leur vie sociale, de leur corps même, de leur rapport au corps. Vous voyez, donc, ils sont vides. Ils racontent le vide. Donc, oui, le vide total. Et donc, c'est impossible à supporter le vide, psychiquement, moralement. Je veux dire, vous sombrez. Regardez, les gens qui sortent des drogues au moment où ils ont un sevrage, c'est le moment le plus dangereux pour eux. Hein, donc, parce que c'est le moment, justement, où ils vont affronter le vide. Et à ce moment-là, ils vont faire une tentative de suicide. Hein, donc, enfin, ils risquent, en tout cas. C'est le moment où ils risquent le plus de faire une tentative de suicide. Ce n'est pas quand ils sont sous l'emprise des réseaux ou des drogues. Non, c'est au moment où ils sortent. Eh ben, pour les gens qui ont vécu des systèmes d'emprise, ce moment particulier de la sortie, et même après, quand votre vie est vide, hein, donc, eh ben, c'est le moment où vous allez chercher quelque chose, vous allez chercher un nouveau maître. En fait, hein. Il y en a qui rentrent à l'armée, il y en a qui rentrent dans les réseaux radicaux, il y en a qui trouvent un autre mari violent. Il y en a... Vous voyez, quand ils n'ont pas élucidé. Hein, donc, ici, on est dans la situation où rien n'a été élucidé. Vous voyez, on a dit, t'en fais pas, avec le temps, ça passera. Hein, donc, pas la peine d'y repenser, quoi. N'y pense plus avec le temps. Vous voyez, tu peux passer au-dessus, il y a quelqu'un de fort. D'ailleurs, tu es résiliente. La théorie de la résilience est horrible pour ça. Horrible, vraiment, quoi. Les gens, il y avait plein de gens qui croient que voilà, machin, est résilient, donc il va s'en sortir. Comme si on pouvait se sortir d'un système d'emprise tout seul, quoi. Comme s'il y avait une force intérieure que certains ont et d'autres pas, donc qui permettent de sortir de l'emprise. Bon, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont d'une emprise à l'autre, mais chaque fois, ils font des apprentissages. Hein, donc, oui, par exemple, donc Iris, là, elle dit, après Saint-Sauveur, c'était son psychologue. Qui s'appelait vraiment Saint-Sauveur, en plus. Hein. Alors, non, mais c'est fou. Iris, c'est quelqu'un qui avait fait des études. Hein. Pourquoi elle ne l'a pas vu, hein, donc, bon, mais ça, c'est autre chose. Il y avait une niche écologique. Donc, elle dit, après Saint-Sauveur, j'ai remis le couvert. J'étais accro au maître. Il y a eu René, mon beau-père, qui était une espèce de gourou aussi. Il y a eu mon mari, qui se prenait pour Dieu. Il y a eu l'alchimiste. On l'appelait le maître. Donc, et donc, par le biais des transmissions et des précarisations, les gens croient sortir et puis ils sont dedans. Hein, donc on voit que pour faire de l'emprise, il faut des tas de nœuds. Hein, donc, ici, franchement, je ne sais pas faire grand-chose. Hein. Quand je vois les étudiants, ce qu'ils arrivent à faire, j'ai honte. J'aurais voulu faire un filet ou tout ça, mais comme j'ai trouvé que... j'ai fait un truc où les gens, ils tirent sur le nœud. Vous voyez, mais ce n'est pas la bonne représentation. En principe, c'est un filet et tout le monde tire. Donc, les traumas... les mauvaises rencontres, la machinerie, la dépendance, l'absence de recours, les risques de répétition. Tout ça, ça fait le système nodal. Et donc, la relation d'emprise n'est qu'un des nœuds. Vous voyez, donc... après, ça, j'en ai déjà parlé. Après, il s'agira de se déprendre. Ah, donc, alors peut-être que, enfin, on s'était dit avec Elsa qu'avant de parler de la déprise, vous auriez peut-être envie d'amener aussi des éléments, parce que moi je ne sais pas tout, moi. Enfin, je veux dire, voilà ce que j'ai appris. Hein, donc, mais vous, vous avez appris aussi beaucoup de choses. Il y a des tas de scènes où vous avez pu comprendre ce qui se jouait et que moi je n'ai pas vécu. Donc je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire, peut-être à ce sujet, ou simplement interagir, dire comment vous les rencontrez, comment est-ce que vous rencontrez, vous, les systèmes d'emprise, comment vous êtes pris dans ces filets aussi. C'est-à-dire qu'il y a toujours des dimensions de toi qui ne sont pas sous emprise. Toi, enfin, c'est ce qu'on va raconter avec se déprendre. Quoi. Certains, les gens s'en sortent avec des petits frémissements comme ça. Tu vois, il y a toujours des petits frémissements. D'abord, qui viennent te voir. Enfin, c'est ça la belle genre. 1, 2, 3, on tutoie les gens qui viennent vous voir. Déjà, c'est déjà quelque chose. Il y a une petite distance. Hein, donc, après, il y a des gens, c'est le souvenir d'avoir été aimé. Il y a des gens qui arrivent à remobiliser des imaginaires, une autre vie. Donc, il y a des gens qui veulent reprendre des liens avec d'autres. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que tu peux pas. On ne peut pas, je crois. On peut dénouer, mais on ne peut pas dire voilà. Ce que tu vis, c'est de l'emprise. Et je vais te tirer de là. Et il est temps que tu te réveilles. Tu dis ça, il y a des moments pour le dire, hein, je ne dis pas que tu ne dois jamais le dire, mais il y a des moments où si tu dis ça, la personne, tu ne la verras plus pendant 2 ans. Ouais. Moi déjà, dans les récits de vie, parfois, il y a des gens qui téléphonaient, ils disaient, écoute Pascal, ce que je t'ai dit, moi je ne sais pas, mais je relis, hein, mais est-ce que ça s'est vraiment seulement passé? Je ne sais pas. Est-ce que je n'ai pas inventé tout ça? Tu vois, donc... Donc c'est très difficile ce moment, tu vois, où tu reconnectes. Donc parfois il faut tourner autour, desserrer les nœuds un à un, essayer de trouver où tu peux les desserrer, hein, donc, plutôt que de vouloir imposer une vision. Regarde, il y a des bouquins incroyables, hein, par exemple Le consentement de Springora. Je trouve que c'est vraiment un chouette bouquin où elle raconte... Moi, elle est entrée sous emprise de ce pédophile, là. Je ne sais plus comment il s'appelait. Vous ne pouvez pas m'aider. C'est l'âge, hein, j'oublie.
C'est
Mazneff, voilà, qui appelle Mazneff. Ou alors Familia Grande, comment elle raconte Camille Kouchner, ce qui s'est joué dans cette grande maison, autour du silence, autour de son frère, ou Triste Tigre. Et donc là, tu vois, c'est tout des ouvrages où tu vois bien de l'intérieur ce qui se joue. Tu vois bien que intervenir trop frontalement, le lien est trop vital et ça ne marcherait pas. Moi, je sais qu'il y a pas mal d'intervenants en Belgique qui utilisent ce truc-là. Tu vois, donc... tu vois, ils essayent de travailler sur là où il y a des petits décalages. Moi, je ne l'ai pas fait pour ça, hein, je l'ai fait pédagogique. Hein, donc, mais il y a des gens qui l'utilisent comme outil d'intervention pour eux. Tu vois, ils essayent d'explorer où est-ce que quelque chose, est-ce que c'est dans les transmissions qu'il y a, où ça peut construire peu à peu un petit décalage. Quoi. Après, l'intervention, tu le trouveras peut-être plus dans la déprise. Hein, donc, mais c'est extrêmement délicat. Hein. Il faut vraiment... Il faut éviter de perdre le contact. Si tu perds le contact, c'est fini. En même temps, il faut dire les choses. Donc, c'est vraiment compliqué. Je ne sais pas comment on fait pour sortir quelqu'un de l'emprise. Mais je sais que, par exemple, les narrativités, les récits de vie, sont incroyablement... C'est une force incroyable. Parce que les gens, ils prennent la parole, ils sortent du silence, ils commencent à réfléchir, ils se remettent à penser, tu vois. Donc, après... Moi, je fais des récits de vie, j'aime bien l'écrit, je fais des choses avec les gens comme ça. Les intervenants, ils font autre chose. Mais c'est quand même toujours la même chose. T'es dans là, des gens qui sont dans une confusion totale et t'essayes progressivement de leur donner un espace d'appui. Les groupes d'entraide sont extrêmement efficaces aussi parce que justement, si tu es aidé quelqu'un qui a vécu la même chose que toi, mais tu trouves que c'est une super personne, comment elle fait, comment elle est, comment elle parle aujourd'hui. Oh, vraiment. Ben alors toi aussi peut-être tu existes, toi aussi peut-être tu vaux quelque chose, quoi. Donc y a plein de... Ouais. Plein de moyens de faire revenir quelqu'un qui a disparu. Mais pas d'un coup en disant « t'as disparu, c'est de ta faute, quoi. Je t'aide et puis toi, chaque fois, tu t'en vas, quoi. Donc, à quoi ça sert que je t'aide? Réveille-toi un peu. » Ça marche pas. La morale, ça n'a jamais marché avec les gens sous emprise. On le savait déjà pour les toxicomanes, hein, ça marche pas. Donc, pour les gens sous emprise, voilà. Après, dans la salle, il y a peut-être plein de gens qui ont de l'expérience, hein, pour tenter de créer des espaces de parole, de conceptualisation, de réflexion sur l'emprise. Tu peux demander à tes collègues, enfin, vous pouvez demander à vos collègues.
Mmh. Je ne sais pas comment ça marche. Vous m'entendez là? Super.
Oui.
Bonjour, je suis Lynn Rosier, je suis coordinatrice de l'EMSF, c'est l'équipe mobile pour soutien aux familles. En fait, on est une maraude qui va en direction des familles qui vivent à la rue, donc l'emprise, on connaît, hein, on en a tellement, entre situation d'exil, enfin tout ce que vous avez dit avant. Nous, on est sur une problématique insolvable, alors j'espère peut-être avoir des pistes aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le mariage précoce dans les bidonvilles. On n'a absolument aucun pouvoir, on n'a aucune solution, on est vraiment impuissant. On a déjà fait des réunions avec tous les partenaires, sur le terrain, avec le procureur. Enfin, vraiment, on a essayé de tirer sur toutes les cordes du nœud, comme vous dites. Mais alors là, il y en a tellement des nœuds. Donc, on a affaire à des mineurs qui sont mariés volontairement, hein, puisque quand on parlait du consentement, il faut en parler, qui n'ont aucune réponse ni par l'ASE, ni par la justice, ni par personne, en fait, parce qu'il y a... Il n'y a aucune solution, vraiment, quand elles sont mariées, entre guillemets, par la vie qu'elles mènent sur le terrain bidonville avec, elles ont reçu cette éducation-là, elles trouvent que c'est super chouette, et quand on arrive à des jeunes femmes de 20 ans qui ont 4 enfants, et qui subissent des violences familiales, qui ne peuvent pas sortir de là, quand elles ont 14 et qu'elles sont contentes de nous annoncer leur première grossesse, on est un peu dévité, on ne sait pas trop quoi faire. Voilà, on a des réponses comme on leur a pas mis le couteau sous la gorge pour qu'elles se marient. Hein. Moi, j'ai vraiment, je viens ici avec cette problématique-là qui est très très récurrente, on va dire, hein, encore, et autant pour les jeunes femmes qui vont tomber enceintes que pour les jeunes garçons, parce que pour leurs 16 ans, ils sont mariés souvent, la plupart du temps aussi. Voilà, ça, c'est un vrai problème en fait. Et on n'a pas de réponse ni institutionnelle ni humaine, et on a beaucoup. Cette réponse de «
mais
oui, mais c'est leur culture ».
J'ai une petite expérience, pas dans cette problématique, mais une problématique un peu similaire. Je peux la partager avec vous, mais ce n'est pas une réponse. Ça va, c'est juste une expérience. Parce qu'à un moment, j'ai travaillé dans un service de santé mentale, dans un quartier turc très fermé sur Bruxelles. On appelle d'ailleurs le quartier turc. La plupart des migrants turcs ou descendants d'immigrants turcs ne veulent pas habiter le quartier turc parce qu'ils trouvent que c'est trop traditionnaliste. Vous voyez un peu, hein, donc dans ce quartier, il y a des transmissions très rigides, hein, par rapport à des codes qui n'existent même pas en Turquie. Hein, qui sont une manière de réagir à l'exil aussi, une manière de se défendre par rapport à un monde qui devient de plus en plus séparatiste et de plus en plus raciste aussi. À Bruxelles, je trouve, hein, donc c'est un espace de protection, le quartier turc. Hein, donc, et avec le quartier turc et cette néo-traditionnalisation dans le quartier, je dis néo-traditionnalisation parce que c'est des traditions réinventées ici. Hein, c'est pas nécessairement ce qui se passe là-bas. Tu vois, bon, il y a l'histoire des femmes, bien sûr, hein, donc de la retraditionnalisation du genre. Donc les femmes doivent être mariées très tôt. À l'intérieur de la famille, pour recréer les grandes maisons communautaires qui offrent une protection par rapport au monde dans lequel on est, donc avec les grands-parents, les fils, avec leurs femmes qui sont souvent importées directement, ou, et ainsi de suite, ou des femmes là, qui importent des hommes de là-bas parce que en amenant la terre d'origine, on va guérir les subjectivités de oui, un peu en difficulté des enfants, et puis tout le problème des drogues et tout dans le quartier, on va les protéger. Enfin, tout ça, c'est des protections. Donc, oui, c'est la question de comment se protéger dans un univers hostile. Donc, après, bien sûr que moi non plus, je ne suis pas du tout d'accord que des jeunes filles se marient très tôt ou que des jeunes gens se marient très tôt, d'autant que pour les jeunes gens, la plupart du temps, ils se marient très tôt et puis ils ont une copine à côté. Et tout le monde souffre beaucoup. Et les jeunes filles, souvent, elles sont du service pour la belle-mère, plutôt que, même si elles reconstruisent après des mythes amoureux. Bon, donc voilà. Et donc, il y a une école, là, dans ce quartier. C'est une école où il y a 90% de jeunes d'origine turque qui viennent tous de Emirda, donc de la même petite ville, les mêmes villages, avec des reconstructions identitaires très néo-traditionnalistes. Vous me suivez ? Ces jeunes sont en troisième professionnel. C'est là où ils sont tout cassés. Là où il y a des classes qui gonflent quand c'est l'hiver et qui diminuent quand c'est l'été. On me dit qu'il fait froid. Donc, voilà. Donc, vous voyez un peu donc, et bien sûr, la question du mariage, la question du genre, c'est un souffle qui peut. Dans ces contextes-là, c'est un souffle qui peut. Ça existait dans le groupe aussi, existait comme parents, existait. Bon. Et donc, comment est-ce que l'intervention qu'on a mis au point, qui est en même temps une méthode de recherche, qui a quand même pas mal fonctionné, mais c'est hyper micro, C'est parce que j'ai mis ma casquette de prof de français. Parce que je ne suis pas seulement anthropologue, j'ai aussi fait les lettres modernes et j'ai enseigné pendant presque 8 ans à des jeunes. Donc, je connais un peu je pouvais faire des alliances avec les profs de français dans l'école. Et donc, on a décidé de faire une recherche sur les mariages. Sur comment les grands-parents, les parents eux-mêmes s'étaient mariés, comment ça s'était joué, pourquoi, les cérémonies et tout. Et nous, on a fait pareil. Donc, c'était le PMS, c'était le PMS chez vous, je ne sais pas ce que c'est. Des psys qui interviennent dans les écoles quand il y a des problèmes, comment on appelle ça chez vous ? Voilà, le psychologue scolaire. Donc, moi, les profs, les profs de français, on a créé des classes de recherche sur cette question-là de l'intime. Mais des mariages en particulier. Parce qu'il y a des trucs qui intéressaient fort les jeunes, les questions de la dot et tout ça, ça intéressait fort, etc. Alors du coup, nous-mêmes, on a fait une recherche sur mes arrière-grands-parents, mes parents, etc. Je me suis rendu compte que mes propres parents, c'était un mariage quasi arrangé. Enfin, je me suis rendu compte de plein de trucs. Et j'ai commencé à partager, tout le monde partageait ses découvertes, etc. Et puis on avait fait un rapport de recherche. Ça a quand même pas mal marché, parce que progressivement, derrière le discours très néo-traditionnel, comme maman dit, est apparu un autre discours plus métissé, qui était « et mes propres désirs, et qu'est-ce que je veux vraiment ?» C'est difficile à l'adolescence, déjà, de dire ce que tu veux vraiment, Et donc ça, par exemple, c'était un mode d'intervention beaucoup plus... Nous, on appelle ça communautaire, mais vous aimez pas communautaire. Je crois que vous dites citoyen. Oui, parce que nous, en Belgique, on est à deux communautés. Donc, on dit toujours communautaire. Donc, c'est pas communautariste chez nous, communautaire. Mais donc, c'est un mode d'intervention citoyen qui a permis, mais pour nous aussi, et pour les adultes aussi, de réaliser le travail du genre sur plusieurs générations. Et donc, c'est de mettre en écho, le tien, celui des autres, et progressivement, c'est de les mettre en recherche, ces jeunes. D'abord, on a écrit un truc qui s'appelle « Adolescence en exil », ce qui était assez rigolo, parce que les jeunes du quartier turc, ils avaient 0 km au compteur, ils n'étaient jamais sortis du quartier. Et pourtant, ils se sentaient en exil. Et pourtant, ils étaient dans des modes de retraditionnalisation identitaire dans les grosses maisons. Donc voilà. Moi, je crois qu'il faut pas être... Il faut travailler... en collectif dans ce genre de situation, parce que je pense que dans ce genre de mariage, les gens ils croient toujours bien faire, marier précocement, ils trouvent que c'est une bonne idée, sinon ils le feraient pas. Donc on peut pas dire que les gens ils aiment pas leurs gosses parce qu'ils sont dans des bidonvilles, tu vois. S'ils font ça, c'est qu'ils trouvent que c'est une bonne idée, que ça va les protéger, que ça va protéger le groupe, que ça va. Et donc remettre le travail du genre dans le temps et dans l'espace et dans les... Oui, travailler au métissage, c'est-à-dire finalement le métissage socioculturel, ce que tu reçois, ce que tu intègres de la société soi-disant d'accueil, mais qui ne l'est pas souvent, ça peut parfois créer des décalages. Mais je ne sais pas, d'autres ont peut-être d'autres expériences. En fait, c'est ça, sur les mécanismes de l'emprise, on est obligé d'être créatif. Tu ne peux pas utiliser les trucs traditionnels là, que tu as appris. Voilà. Mais je ne pense pas qu'il n'y a aucune solution. Il y a pas, c'est pas la, d'ailleurs, le mot solution n'est pas juste. Donc, il y a des transformations très progressives des communautés et parfois des retours en arrière très forts. Et parfois, en travaillant avec la jeunesse, on peut arriver à sécuriser les métissages. Mais les métissages qui ne sont pas sécurisés, tu vois, ou si tu deviens, je ne sais pas, à la Belge ou à la Française, tu vas te faire détruire. Donc, c'est compliqué. Je pense, pour les jeunes, de ne pas rentrer dans la néo-traditionnalisation. Il faut sécuriser qu'ils aient des relations en dehors, et puis lentement, il y a des nœuds qui se dénouent, je crois. Mais bon, toi, tu connais mieux, hein, Olivier, toi, c'est un peu tes champs aussi. Hein,
Oui, ça, tout à fait, on pourra en parler. Sur la question des mariages précoces, unions précoces et autres, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient un petit peu partout, sur les bidonvilles. Et bon voilà, on va réfléchir un peu au levier, mais c'est vraiment un sujet
que tu vas aborder cet après-midi.
Ouais, effectivement, chouette. On va aborder cet après-midi plus davantage en atelier, j'ai envie de dire.
Oui.
Parce que oui, c'est et là le lien avec le pays d'origine est plus important parce qu'on est quand même sur une première migration. Donc c'est pour ça que le fait de voilà de pouvoir faire des allers-retours avec le pays d'origine serait important.
Dans ce contexte-là.
Ouais, tout à fait.
Voir ce qui se passe vraiment au pays, derrière ce qui est dit.
Ouais, je vois. Parce que ce sert pas juste pour vous donner quelques indicateurs, par exemple, s'il y a 5 ans de différence entre le garçon et la fille ou plus, on n'est pas du tout sur un mariage traditionnel ou même une retraditionnalisation. Il y a un autre objectif qui est derrière. Donc il faut être en capacité d'identifier ce qu'il y a derrière. Merci.
Ouais. Peut-être qu'on pourrait aller sur la déprise doucement, ou vous avez envie de... Peut-être qu'il y a des questions qui vont arriver autour de la déprise, puisque c'est les questions qui arrivent, hein, la tienne, enfin, c'est les questions autour de... Oui, mais émanant la déprise, quoi. On pourrait peut-être avancer un peu, et puis on reprend vos questions après. Oui, ça vous va? Oui,
ok. Je vais mettre 3 secondes de réaction.
Vas-y.
J'avais fait quand même sur l'emprise et sur le fait d'identifier que il y a différents systèmes d'emprise qui sont joués. Pour la première partie, en tout cas, de ce que tu nous éclaires, moi personnellement, ça m'a renvoyé à la fois à des formes d'emprise auxquelles j'ai pu être confrontée dans ma vie personnelle, professionnelle, et je trouve que ça engage aussi à réfléchir au système d'emprise que nous-mêmes on agit.
Bien sûr.
Et particulièrement dans le champ professionnel, je ne sais pas pour les collègues ce que ça vous a évoqué, mais si on fait le parallèle avec le monde du travail dans lequel on est tous pris, je pense qu'on s'est tous posé la question de dans quelle appartenance je suis et du coup qu'est-ce que j'agis aussi comme système d'emprise. Et c'est intéressant aussi qu'on puisse identifier les deux niveaux. D'un côté, dans quoi moi-même je suis prise comme type d'emprise ou comme système d'emprise, et est-ce que je l'ai été, est-ce que je le suis toujours, à quel degré, à quel niveau, mais aussi qu'est-ce que j'actionne moi-même comme système d'emprise, dans quoi moi-même je suis prise sans le voir, qui fait que je prends l'autre dans mon filet. Et tout un travail social, c'est intéressant aussi de se poser la question quand on est face à des publics qui sont vulnérables, qui sont pris dans de multiples systèmes d'emprise, où parfois on a la tentation de vouloir les ramener dans notre propre système d'emprise. Et je pense qu'on est aussi acteur d'emprise dans le travail social, et parfois on fulmine que l'autre ne sorte pas de ce système d'emprise pour aussi rentrer dans le nôtre.
Oui.
Et d'une certaine manière aussi, parfois on est très satisfait quand une personne vient se fier, s'ancrer, se raccrocher à nous pour sortir du système d'emprise dans lequel elle est, sans mesurer que nous-mêmes, peut-être, on devient le maître actuel.
Oui, tu deviens acteur. Hein. Dans le travail social, tu es souvent acteur.
Et
franchement,
en
oui.
En fait, moi-même, ça m'engage aussi à réfléchir, même d'un point de vue plus global, je suis directrice d'équipe, qu'est-ce que je joue de ça au sein de mon équipe? Quelles sont les zones d'ouverture que je peux donner et voilà, on se pose toujours la question des mécanismes de domination, je pense, quand on est dans un espace où les rapports de force sont parfois inégaux. Mais je trouve que ça engage d'aller encore profondément à ça parce qu'on n'identifie pas forcément toutes les formes d'emprise et là, je continue de faire sur ça.
Oui, je trouve que la frontière entre les emprisés et les empriseurs Elle est évidemment très fragile. Hein. Ouais, très. Parce qu'il n'y a rien à faire. Toutes les sphères de pouvoir peuvent devenir des sphères d'emprise. Toutes. Si tu n'as pas, si tu n'as pas mis en place des dispositifs de régulation, ben, clairement, ça va très vite. Quoi. Ça, tu as raison. Et même dans les trajectoires de vie. Hein. Je vois, par exemple, maintenant, je travaille au quartier femmes dans la prison, dans une prison là, dans mon coin. C'est vrai que c'est, plus ça avance, plus je me rends vraiment compte que ce sont des femmes en conflit avec la loi. Mais pourquoi elles ont été en conflit avec la loi? Elles ont connu, ouais, elles ont été incestées, violentes. Elles ont une vie de merde incroyable, quoi. Hein, donc elles ont été abusées de tous les côtés, donc clairement. Et puis à un moment, elles ont retourné la violence. Et elles ont commis des infractions. Parfois, elles ont été dans les drogues et tout ça, et elles ont été ramassées par la prison. Mais parfois aussi, elles ont tué qui un mari, qui un beau-père, qui un père violent, etc. Et là, c'est clair que là, surtout pour une femme, la justice est terriblement patriarcale. Hein. Donc là, les questions... autant il n'y a pas eu de justice dans leur vie, autant par rapport aux actes qu'elles ont commis, il y a eu des réactions judiciaires extrêmement violentes, quoi, je trouve. Quoi. Mais donc ça veut dire que, et dans ta trajectoire, tu peux passer facilement d'être sous emprise, d'accumuler la violence et puis à un certain moment mettre, d'agir cette violence. Et puis tu peux te dire aussi, quand tu as été sous emprise, bah, tu cherches à être... à sortir des sphères de pouvoir, donc parfois à devenir responsable. Hein, donc, et quand tu deviens responsable, est-ce que tu vois toujours si les sphères de régulation sont bien là, quoi. Donc ça, je comprends, oui, tout à fait. Je me pose souvent les questions, surtout mon boulot de prof, par exemple. Les profs aussi ont incroyablement du pouvoir. Hein. Franchement, les assistants sociaux ont beaucoup, énormément de pouvoir sur la vie des gens. Et les responsables des assistants sociaux, beaucoup aussi. Les profs aussi, on ne peut pas dire on n'est pas atteint. On doit tous... C'est pour ça que décrypter l'emprise, c'est important, quoi. Donc,